Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Chaque année depuis 2011, Télérama tente de réaliser l'impossible, rendre lisible et compréhensible sous forme de schéma le mercato médiatique. Car il faut avoir le cerveau bien en place pour y voir clair dans les différents transferts d'une chaîne de radio ou de télé à une autre. Et encore, le magazine ne s'intéresse-t-il qu'à l'audiovisuel, pas au mouvement, au sein de la presse écrite. Alors s'agissant du mercato 2017, il aura d'abord été marqué par ce que Laurence Bloch, directrice de France Inter, aurait qualifié d'OPA hostile, le départ vers Europe 1 de son matinalier, Patrick Cohen, du directeur des programmes de la chaîne, Emmanuel Perrault, et avant cela du numéro 2 de Radio France, Frédéric Schlesinger. Ce fut en quelque sorte le top départ de ce qui est devenu un rendez-vous saisonnier, et dont les principaux acteurs s'appellent cette année David Pujadas, Anne-Sophie Lapix, Jean-Pierre Elkabbach, William Lémergie, Yves Calvi ou encore Daphné Burki. Cette circulation d'un média à un autre, d'un groupe public à un groupe privé ou inversement, n'a rien de condamnable en soi. C'est la loi d'un secteur particulièrement concurrentiel. Mais de tels mouvements posent la question de l'interchangeabilité des journalistes et de l'absence de régulation de ces transferts. Dans d'autres milieux professionnels, des clauses de non-concurrence sont en vigueur. Ce n'est pas toujours le cas dans les médias, mais seulement souhaitable. Mercato des journalistes, la loi de la jungle. C'est la question que nous allons poser ce soir à trois journalistes médias et à une historienne. Je commence par l'historienne, c'est vous, Isabelle Véramasson. Bonsoir.
Bonsoir.
Historienne et sociologue des médias, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Pour discuter avec vous, Julien Belvert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de Pure Média, qui est un site consacré à l'actualité des médias. Vous intervenez régulièrement, même chaque semaine, et sur France 5, c'est le samedi, et sur RTL, c'est le dimanche soir. Notre troisième invité, Cyril Lacarrière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'Opinion et vous y êtes en charge des médias.
Absolument.
Et puis quatrième et dernier invité, Redouane Tella, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste et programmateur de l'Instant M, l'émission de France Inter présentée par Sonia De Villers chaque matin de la semaine à 9h40. Alors, première question qui, je dois dire, m'intéresse au premier chef, puisque à la faveur du départ de Patrick Cohen pour Europe 1, on sait que c'est la saison prochaine Nicolas Demorand qui sera sur la matinale. Il y a donc une case qui se libère au 18-20 de France Inter. Est-ce que vous avez des informations sur la personne qui va le remplacer et qui sera donc en confrontation, évidemment amicale, mais en confrontation directe avec du grand amour, Julien Belair?
Il y a plusieurs noms qui circulent sur cette case qui est très convoité. Le premier nom, c'est Ali Badou, vous savez, qui a fait son retour sur France Inter il y a quelques mois, le vendredi, pour l'interview de 7h50. Ali Badou est en bonne place pour reprendre cette place, justement. Le nom de Sonia De Villers avait été évoqué, je crois, à une période.
Histoire de bien mettre mal à l'aise, voilà, à la bonne Tella.
Mais je crois que finalement, Sonia va rester sur France Inter le matin, à la rentrée.
Cyril Lacarrière, vous avez d'autres noms, d'autres infos?
J'ai exactement les mêmes informations que Julien Belvert.
Bon, Redouane Tella, je ne vais pas trop vous embarrasser avec ça, parce que ça concerne une chaîne sur laquelle vous travaillez.
Bon, j'évoquais... Ce qui est intéressant, c'est ce que voulait faire France Inter avec cette tranche, en fait. Nicolas Demorand l'a installé en l'orientant vers l'international, sur les sujets internationaux, ce qui n'existait pas sur la grille à ce moment-là, ce qui est assez rare aussi sur les radios généralistes, en tout cas. Et là, Inter se posait la question, est-ce qu'on continue sur l'international, est-ce qu'on va vers la société? Et c'est là peut-être où Sonia De Villers aurait pu prendre cette tranche en main. Et finalement, il semble que la radio ait envie de poursuivre et de creuser ce sillon des questions internationales qui semble jusque-là, en tout cas, bien fonctionner.
Alors ce qui semble assez intéressant, je ne sais pas si c'est totalement inédit, sans doute pas, mais c'est que c'est quand même le monde de la radio qui, cette année, semble avoir donné le la de ce mercato médiatique. Est-ce qu'on peut dire qu'en tout cas, c'est vraiment du côté de la radio, Redouane Tella, que la saison des transferts a véritablement commencé?
Très clairement. Habituellement, le mercato média commence à la période du Festival de Cannes, et c'est la télé qui donne le la. Cette année, on a le mercato s'est lancé beaucoup plus tôt, et on a eu, avec Patrick Cohen, mais aussi le départ des directeurs Emmanuel Perrault et Frédéric Schlesinger, une vraie volonté de la part de la radio et de la part d'Europe 1 de se positionner comme étant le leader de ce mercato, et c'est Europe 1 qui va aller recruter des voix ailleurs, mais aussi des visages à la télé. On parle de Daphné Burki en ce moment.
C'est un phénomène récent, justement, ces transferts qui semblent chaque année prendre davantage d'ampleur. Ils avaient le Vera Masson dans le monde de l'audiovisuel.
Non, c'est... Alors là, je crois qu'on parle essentiellement des journalistes. Hein. Mais en réalité, la question des transferts a été un sujet historique important en ce qui concerne les animateurs. C'est-à-dire que quand vous parliez de marque, vous parliez de visages reconnaissables, de concurrence, et c'est autour des animateurs le plus souvent que cette question de déplacement se pose, parce que effectivement il y a cette idée que les gens suivent un tel ou un tel, de Léon Zitrone jusqu'à aujourd'hui Marc-Olivier Fogel ou Christophe de Chavannes, ce sont des gens qui sont très bien, je parle bien sûr Hanouna, ce sont des gens très bien identifiés, à la fois les images, la voix, le type d'émission. Donc c'est là-dessus que sont les enjeux. C'est assez rare de parler du déplacement des journalistes. Pour moi, qui suis une historienne des médias, le déplacement des journalistes, c'est d'abord la censure. C'est-à-dire que c'est une manière de régler les questions politiques. C'est pour ça que l'éviction, vous voyez comment je parle, c'est une habitude. Lorsque David Pujadas n'est pas conservé, immédiatement, mes oreilles se dressent en disant, y a-t-il de nouveau des sanctions politiques, on parle de... Voilà. Donc, la question des journalistes n'est pas la question la plus courante. En général, c'est plutôt sur la question des animateurs que cette histoire de Mercato se pose.
Alors, est-ce que justement, c'est une question qui devient courante, cette question du transfert des journalistes et pas seulement des animateurs? C'est vrai que si on se souvient de ce qui s'est passé, notamment dans les années 80, avec l'apparition des chaînes privées, la 5, Berlusconi, où là, il y avait eu tout le transfert des animateurs du public vers cette chaîne privée qui se créait, moyennant évidemment des salaires plutôt confortables. Mais s'agissant
des... ça nous avait quand même montré, et c'est intéressant pour les journalistes, hein, je suis totalement dans le sujet en disant ça, que les gens n'avaient pas suivi les animateurs. Hein, c'est-à-dire que cette idée que les téléspectateurs, pareil, que les auditeurs suivent des personnages connus qui font de l'audience, c'est avéré fausse. Et donc, tous ces gens ont perdu, mais on pourrait en parler pour quelqu'un comme Yves Calvi.
On va voir si cette règle-là, en tout cas, qu'on avait pu observer il y a une trentaine d'années, elle est toujours valable aujourd'hui. Mais sur le fait que ces transferts touchent aujourd'hui peut-être de plus en plus de journalistes, Julien Belvert.
Chaque année, si vous voulez, il y a une espèce de thématique au Mercato. Donc cette année, en effet, c'est la thématique radio, avec ce grand départ de Patrick Cohen pour Europe 1. L'année dernière, souvenez-vous, il y avait pas mal de problèmes à Canal+. C'est Maïtena Biraben qui a été débarquée de Canal+. Donc il y avait une espèce de concentration de mouvement chez Canal. On a vu que ça a été compliqué pour cette chaîne. Mais en fait, chaque saison, vous avez des transferts d'animateurs, des patrons de chaîne qui correspondent à des périodes. L'année dernière, c'était une période particulière parce que France Télévisions avait une nouvelle présidente depuis un an, et c'était la première fois qu'elle pouvait mettre enfin sa grille de programme en place. Donc ça a déclenché énormément de mouvements d'animateurs. Cette saison, on arrive à la fin d'une période présidentielle. Donc c'est une espèce de séquence qui a duré 5 ans. Il y a une forte volonté de renouvellement des médias, parce qu'ils savent très bien que l'année prochaine le sujet politique ne sera pas le sujet dominant. Ils savent très bien, des études ont été faites, que les Français en ont ras-le-bol qu'on parle de politique. Donc forcément, les médias adaptent leur grille en fonction des sujets qui vont être traités l'année prochaine. Donc à chaque saison, de mi-mai jusqu'à fin juillet, il y a ce sujet Mercato qui est généralement adapté un peu à l'humeur du moment. C'est difficile à saisir, mais c'est un peu ça.
Et si on fait un comparatif avec les saisons précédentes, est-ce qu'on pourrait dire que cette saison est particulièrement riche en Mercato, ou bien est-ce qu'on a connu quand même des saisons de transfert beaucoup plus animées, Cyril Lacarrière?
Disons qu'elle touche là à des personnalités assez fortes et qui tiennent des tranches importantes. Évidemment, Patrick Cohen, vous avez évoqué le cas de David Pujadas, ça fait 16 ans qu'il est en place, donc évidemment, lorsqu'on change un présentateur de 20 heures, déjà c'est pas si souvent, c'est pas si fréquent, aussi bien sur TF1, France 2, et puis pour les 19-20 de France 3, le turnover est assez faible, et donc évidemment, quand on enlève des personnes comme ça qui sont un peu emblématiques, très connues du grand public, ça marque un peu plus. Après, on est mi-juin, est-ce que c'est plus actif que les autres années? Non, ça commence tranquillement, et encore une fois, Julien
l'a dit... C'est encore un peu tôt pour en juger?
Oui, enfin, l'été ne fait que commencer, donc il va certainement y avoir d'autres mouvements, d'autres arrivées... Europe 1, certainement, la grille est en complète reconstruction, donc il y a certainement de nouvelles têtes qui vont arriver, de nouvelles figures, des prises de guerre que Rob va devoir faire pour se reconstruire, parce que en plus sa grille fonctionne mal.
Ça ne fait que commencer, Redouane Tella.
Ça ne fait que commencer. Après, en télévision, en réalité, il y a de moins en moins de créneaux disponibles. Il va peut-être y avoir, maintenant c'est à vous, on sait que ça va être Anne-Elisabeth Lemoine qui remplace Anne-Sophie Lapix, qui, Anne-Sophie Lapix, va présenter le journal de 20h sur France 2. Il va peut-être y avoir le cas C'est l'Hebdo, encore une incertitude sur quelques cases, mais mineures, le pré-access de C8, vous voyez, on est dans ces choses-là. Oui, c'est en radio qui a encore de la place à prendre. On parlait du 18-20 d'Inter, mais il y a toute la grille d'Europe 1 à reconstruire.
Mais les gros transferts sont terminés. Le plus gros transfert, c'était Patrick Cohen, on l'a déjà dit. Le plus gros départ surprise, c'était David Pujadas. Mais toutes les cases telles qu'on les connaît aujourd'hui, les cases fortes, que ce soit l'accès de C8, l'accès de Canal, Yves Calvi, que ce soit le 20h de France 2, toutes les cases sur lesquelles il y avait des incertitudes, ces cases-là, c'est réglé. Donc après, évidemment, il va y avoir des modifications à la marge et puis des modifications dans les équipes, parce que ces animateurs, parfois, viennent avec leurs équipes quand ils changent de crèmerie, ce n'est pas toujours le cas. Donc il peut y avoir des ajustements à ce niveau-là, mais le gros du mercato est passé, on va pouvoir partir en vacances.
Et le tort qu'on a, nous, journalistes médias, c'est justement de ne pas assez parler des équipes. On dit Daphné Burki quitte C8 pour aller probablement sur France 2. Daphné Burki quitte C8, mais quand elle quitte C8, il y a toute son équipe, il y a plusieurs dizaines de salariés qui perdent leur boulot.
Qui se retrouvent sur le carreau, ouais. Parce que Daphné Burki, quand elle quitte C8, elle ne part pas avec la boîte de prod qui l'a produit, parce qu'en télévision, c'est pas la télévision qui produit un programme, mais c'est une société de production. Donc là, elle laisse, en effet, comme l'a dit Redouane, des dizaines de personnes sur le carreau, parce qu'elle va arriver sur France 2 avec une autre boîte de prod, elle va devoir créer une autre équipe.
Alors quand Daphné Burki quitte C8, elle part aussi, enfin, je pense qu'on cam, enfin, c'est le cas finalement de tous les journalistes qui changent de médias, soit qui passent de la radio à la télé, du public au privé ou inversement. Elle part aussi avec une image et avec une incarnation d'une chaîne. Et alors j'en viens justement au sujet de notre discussion de ce soir. Maintenant qu'on a apprécié l'état du mercato 2017, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble problématique que de voir des journalistes circuler d'un média à un autre? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça participe de cette ambiance et de cette vision qui semble de plus répandue et qui fait qu'on considère que tous les médias finalement se valent parce qu'ils disent tous la même chose, et que ce serait des éléments qui accréditeraient cette thèse que de voir les journalistes justement circuler d'un média à un autre? Isabelle Vera-Masson.
Alors, je voudrais d'abord faire des distinctions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout à fait parler d'une manière générale de cette question-là. Ça dépend de qui se déplace. C'est vrai qu'un journaliste, c'est pas tout à fait le même enjeu qu'un responsable de médias, qu'un patron ou un animateur. Et même si tout le monde est un peu limite, mais ce n'est pas tout à fait la même problématique. Un journaliste, son problème, c'est plutôt d'être maintenu dans son média. Hein. Le risque d'un journaliste, c'est d'être viré pour des raisons politiques, pour des raisons d'entente, etc.
D'accord que là, ce soir, on parle, on va dire, des figures médiatiques, c'est-à-dire des plus connus et des dirigeants. Voilà.
Oui, voilà. Mais c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même problématique. Le patron, il part pour des raisons tout à fait différentes, et pareil pour l'animateur. Donc il faut voir cette distinction. Ensuite, il faut voir les raisons pour lesquelles on part. Se déplacer parce que vous allez gagner plus d'argent, c'est pas pareil que se déplacer parce qu'on ne peut pas faire librement son travail. C'est pas la même chose d'être, comme je le disais, licencié ou de choisir son départ, etc. Donc ça, il faut le dire. Et puis il faut ensuite voir le type de déplacement. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose lorsque quelqu'un passe des Échos à la Tribune. De Libération à Marianne, hein, je pense à certains cas particuliers, ou bien tout d'un coup de passer du Figaro à l'Humanité, ou de l'Humanité au Figaro, ou de Marianne au Point.
Ou du Nouvel Obs au Figaro, parce que ça me fait penser à François-Olivier Gisbert, qui il y a quelques années avait défrayé la chronique en passant d'un journal catalogué à gauche à un journal catalogué à droite.
Ça. Donc ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même valeur, ça ne pose pas les mêmes problèmes, et il faudrait à chaque fois se rappeler de ces trois éléments qui me semblent différents. Moi, il me semble pas scandaleux, même normal de déplacer à l'intérieur des médias, pourvu que ce soit choisi, pourvu que ce soit pour des raisons normales, c'est-à-dire simplement vouloir gagner plus d'argent, vouloir être plus à l'aise, avoir plus de liberté. Et par contre, ça me semblerait choquant de partir pour des raisons parce qu'on est forcé, parce qu'on manque de liberté, ou aussi parce qu'on n'a pas d'opinion politique, on n'a pas d'idée, qu'on va de l'un à l'autre en fonction de son besoin d'argent ou de célébrité. Vous voyez, il faut nuancer.
Vous en pensez quoi, Cyril Lacarrière?
J'en pense quoi? J'en pense que la question est de savoir si, lorsqu'il bouge, le journaliste, lorsqu'il change de média, le journaliste change un peu son discours. Si je suis journaliste à Libération et que je pars pour devenir journaliste au Figaro, pour rester sur des... Est-ce que mon propos va changer ou pas ? C'est là où ça posera un problème. Si, effectivement, le journaliste, tout d'un coup, était une espèce de caméléon, avait tenu un discours très à gauche quand il était à Libé et très à droite quand il est au Figaro. Là, on comprendrait plus, en fait. On dirait, finalement, qu'est-ce que pense réellement cette personne ? Est-ce qu'il a de réelles opinions ? Quel est, le rôle du journaliste dans ce média ? Est-ce que c'est juste de rapporter des faits ? Est-ce que c'est aussi de prendre position ? Donc, c'est ça qu'il faut regarder sur le long terme, en fait. C'est comment le journaliste, une fois qu'il a bougé pour des raisons qui peuvent lui être propres et tout à fait respectables, ensuite s'inscrit dans la démarche et dans la ligne éditoriale de son nouveau média.
Redon Tella.
La question peut encore se poser avec la presse écrite, je pense, parce que la presse écrite, on achète un titre et on le lit entièrement et on a nos signatures. Quand j'achète l'opinion, je sais que je vais trouver dans les pages médias Cyril Lacarrière. En télé et en radio, j'ai l'impression qu'elle se pose plus cette question, parce qu'on a l'ère du podcast. Il faut pas le nier, il y a certains de vos auditeurs qui vous écoutent en podcast et puis qui ensuite vont peut-être écouter Les Grandes Gueules et puis peut-être après l'Instant M. Et la marque France Culture, la marque RMC, la marque France Inter n'existe pas. Presque plus. On a pas mal parlé l'année dernière du départ de Yann Barthès, le visage du petit journal de Canal Plus à TMC. On se disait, mais qu'est-ce qu'il va faire sur Télé Monte Carlo, la chaîne de TF1? C'est incompatible, il est tellement esprit canal et patati et patata. On l'entendait beaucoup ça l'année dernière. Et bien Yann Barthès, il a prouvé qu'en réalité ça ne voulait plus rien dire. Ses téléspectateurs le regardent tout autant qu'auparavant parce qu'ils vont chercher Yann Barthès, le produit. On ne regarde plus les marques de médias en réalité. Je pense que le podcast a vraiment changé la donne à ce niveau-là.
Cyril Lacarrière.
Et puis la multiplication de l'offre.
C'est Isabelle Véramasson. Et Cyril Lacarrière, ensuite Julien Bellevert.
Est-ce que c'est si vrai ? Ça s'est effectivement impliqué sur Yann Barthès. Mais regardez, Yves Calvi a quitté France 5. Les niveaux d'audience sont restés identiques, ont même été très bons au cours de la saison. Et donc, je pense que c'est vrai. Il y a quelque chose de très fort qui s'est passé avec Yann Barthès, qui a installé Quotidien de manière surprenante. Des niveaux qui sont comparables à l'émission de Cyril Hanouna sur C8. Mais est-ce que c'est appliqué ? Est-ce que cette observation s'applique à d'autres animateurs ? Je ne pense pas que ce soit si vrai, parce que je crois qu'il y a chez Barthès aussi une représentation assez forte. Il incarne quelque chose de l'époque qui est assez rare, à mon sens.
Et puis surtout, il n'a pas de concurrence, Barthès. Alors que Yves Calvi est parti en laissant C'est dans l'air. Oui, mais... C'est-à-dire qu'au même moment, il y a deux émissions semblables. Donc ça veut dire que...
Il y avait une émission qui a continué à s'appeler le petit journal sur Canal+, même si le format était très différent. Oui. Et c'est vrai que
c'est pas du tout la marque. Moi, j'ai regardé les deux, c'est pas du tout les mêmes émissions.
Mais Yves Calvi est parti.
Alors Yves Calvi, c'est la même.
Mais Yves Calvi est parti avec une partie de son public. Sur LCI de 18h à 20h, il a fait les meilleurs scores de la chaîne.
Il
a augmenté le public et c'est à vous à garder, c'est dans l'air, excusez-moi, à garder une partie du public.
Julien Bellevert, est-ce que vous partagez cette analyse-là ? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est le pari qui a été justement fait cette année par Europe 1, que de se dire, on a quand même une figure, un grand matinalier en la personne de Patrick Cohen et donc il va nous ramener des auditeurs ? Ou bien est-ce que le passage du public au privé complique un petit peu la donne ?
Clairement, ça la complique. Je pense que les auditeurs, les fidèles auditeurs de France Inter et de Patrick Cohen le matin ne seront pas sur Europe 1 à la rentrée. Parce que, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a la publicité sur Europe 1, qu'il y a beaucoup, beaucoup de publicité. Et les auditeurs de France Inter sont très attachés à la marque France Inter. Les auditeurs de France Inter, c'est un peu particulier. Ils ont vraiment un attachement aux animateurs, aux journalistes, à la marque, à la philosophie de cette radio. C'est beaucoup moins vrai en télévision. En télévision, depuis 2-3 ans, les chaînes plus vraiment d'identité. Il y avait une période où vous aviez les animateurs Canal+. Vous saviez en voyant un animateur que vous étiez sur Canal. À une période où vous aviez les animateurs TF1, les animateurs du service public qui incarnaient la chaîne. Aujourd'hui, depuis que Vincent Bolloré est arrivé à Canal+, en gros, il a lâché tous les animateurs parce que la plupart ont été virés. Ils ont été tous récupérés par le service public, TF1, M6. Et en fait, cette identité propre à la chaîne a été totalement dissoute dans tout le PAF. Et aujourd'hui, vous n'avez plus vraiment d'identité. Quand on apprend que Daphné Burki, qui est une très bonne animatrice, mais qui est assez segmentante comme animatrice, va se retrouver sur France 2 l'après-midi à faire une émission qui va être regardée par les plus de 70 ans. On se demande comment la greffe va pouvoir fonctionner.
Mais est-ce que vous diriez, Julien Belver, que cet effacement de l'identité des chaînes, il est lié justement, il est la conséquence de ce phénomène de mercato qui est peut-être de plus en plus important, ou bien est-ce que c'est parce que l'identité des chaînes est en train de s'effacer que le mercato est plus facile aujourd'hui et plus étoffé qu'il ne l'était auparavant?
L'un a entraîné l'autre, en fait. Aujourd'hui, le mercato, il est facile parce que il n'y a plus d'animateurs identifiés à une chaîne. Avant, recruter un animateur Canal+, quand on était France 2 ou France 5, c'était compliqué parce que il n'y avait pas du tout de passerelle entre les deux publics. Maintenant, une Anne-Sophie Lapix qui arrive sur France 5 pour animer C'est à vous, ça pose pas de problème. Une Anne-Élise Labette Lemoine qui est une ancienne de Canal+, qui va reprendre l'émission l'année prochaine, ça ne pose pas de problème. Une Anne-Sophie Lapix qui va reprendre le 20h de TF1, ça ne pose pas de souci. Une Daphné Burki sur France 2, c'était inenvisageable il y a 5 ans, ce genre de transfert. Mais la transformation de Canal+, a ouvert les vannes. Et aujourd'hui, vous avez tous ces talents qui ont irrigué tout le PAF. Et aujourd'hui, je pense que c'est un mal, parce que toutes les chaînes n'ont plus une véritable identité. Si je vous demande quel est l'animateur qui incarne le mieux TF1 aujourd'hui, on ne sait plus vraiment, quoi. Il y a Nikos, un petit peu Christophe de Chavannes qui fait ses entrées, ses sorties, mais ils n'ont plus vraiment d'incarnation hyper forte. Ils ont essayé notamment avec Alessandra Sublé, qui avait une forte identité France 5. La greffe n'a pas fonctionné. Donc c'est compliqué pour les chaînes aujourd'hui d'avoir des incarnations fortes.
Je me tourne à nouveau vers l'historienne des médias et en particulier de la télévision que vous êtes, Isabelle Véramasson. Vous évoquiez tout à l'heure la figure de Léon Zitron. Est-ce que par exemple à l'époque où les chaînes étaient publiques, où il y avait TF1, Antenne 2 et FR3, c'était quelque chose d'envisageable de passer d'une chaîne à une autre, ou bien est-ce que justement quand on était même au sein du même service public, on était quand même très lié et très porteur d'une identité de chaîne?
Oui, complètement. Et d'ailleurs, Monique Dagneau a écrit un livre qui s'appelle L'âme des chaînes, pour signaler qu'il existait bien l'âme des chaînes, et que cette âme des chaînes, elle est portée à la fois par un certain type de programme, mais aussi par des visages, par des personnalités, et indiscutablement, et c'est d'ailleurs... Ce n'est pas un hasard, et ça va jusque maintenant, la multiplication des chaînes qui a permis ce fameux déplacement des animateurs dont je parlais tout à l'heure est arrivé avec l'arrivée de nouvelles chaînes. C'est-à-dire qu'à partir du moment, alors maintenant qu'il y en a des dizaines, c'est encore plus compliqué de trouver l'âme des chaînes. Donc c'est d'abord, à mon avis, l'offre qui a permis ces déplacements. Enfin, on voit bien comment on regarde la télévision. Évidemment, la télécommande a changé les choses, tout simplement. Et puis le fait qu'on se met sur la chaîne zéro, la chaîne de la mosaïque pour regarder un peu ce qui se passe, qui est, on ne sait plus très bien si on zappe sur la 1, la 2 ou la 3, on zappe sur un visage, sur un type de programme. C'est pour ça que c'est le modèle du jukebox qui finalement domine, c'est-à-dire qu'il y a des boutons qui proposent des programmes, et on appuie sur un bouton, on ne se met pas automatiquement sur une chaîne pour voir ce qu'il va y avoir, on se met sur toutes les chaînes et on choisit son programme en fonction de ça. Ce qui veut dire que les chaînes vont se positionner non pas pour créer de l'âme des chaînes ou un esprit Canal+, comme on le disait, mais pour proposer des programmes qui vont se concurrencer les uns et les autres, apporter de l'audience, faire de l'audience. Il y a même plus d'access prime time, d'une certaine manière. Même ça est en train de se dissoudre. On est vraiment dans le jukebox, on appuie sur un bouton ou pas.
Cyril Lacarrière.
J'ai l'impression que cette disparition, en tout cas c'est l'anté-érosion de l'identité des chaînes, est aussi liée à la consommation de la télévision, qui se délinéarise, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une marque forte pour attirer le public qui va regarder votre chaîne à tout instant, c'est-à-dire le soir, le matin, la nuit. Les gens qui regardent Yann Barthès veulent le regarder à n'importe quel moment, peu importe pour eux de se brancher sur TMC à 19h10 ou 19h20. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir regarder Yann Barthès quand ils veulent. C'est donc important pour les chaînes d'avoir des identités, des incarnations très puissantes qui drainent un public en dehors de la grille même de la chaîne. C'est pour ça que l'essentiel pour eux, c'est ça, c'est d'avoir une espèce de tête de gondole, quoi. Désolé si ça fait un peu produit commercial pour un animateur ou un journaliste, mais c'est la réalité. C'est ça aussi la consommation aujourd'hui de la télévision. C'est de moins en moins à heure fixée par la chaîne, mais à l'heure où nous, on veut regarder le programme.
Alors, je vous rappelle que le sujet que nous posons ce soir, il a le trait au mercato des journalistes. Est-ce que c'est la loi de la jungle? Et nous en discutons avec Julien Belvert, rédacteur en chef de Pure Média, Edouane Tella, programmateur de l'Instant M sur France Inter, Cyril Lacarrière, journaliste média à l'opinion, et Isabelle Vera-Masson, directrice de recherche au CNRS, historienne et sociologue des médias. Je reviens un instant, pas un instant, puisque c'est ce dont on parle ce soir, mais en tout cas, cette question des transferts. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des transferts qui passent peut-être quand même encore aujourd'hui, moins bien que d'autres, et je pense notamment justement à ce passage du public au privé. Quand on évoque le cas de Patrick Cohen, c'est pas un cas qui est totalement inédit. À France Inter, on a déjà connu ça il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, c'était quand Nicolas Demorand était passé de France Inter à Europe 1, et à l'époque il y avait eu notamment un communiqué de la SDJ Radio France évoquant une trahison parce que voilà, il partait alors qu'il avait été créé justement par le service public. Est-ce que ça s'atténue un peu, Edouane Tella ?
Et dans le cas de Patrick Cohen, ça ne veut plus rien dire, parce que Patrick Cohen, il a commencé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas sa biographie en tête, mais il a commencé à France Info, il est né à Radio France, et puis ensuite il a fait RTL, Europe 1, et il est revenu au sein de la Maison Ronde à la matinale de France Inter. Il l'a porté, cette matinale. Mais maintenant, je pense que cette problématique qui existait il y a quelques années encore ne se pose plus. En tout cas, ça ne choque plus les auditeurs qui l'ont écouté sur Europe 1 il y a encore quelques années.
Je suis pas sûre.
Isabelle Vera-Masson.
Je ne suis pas sûre. On trouve quand même cette idée. Alors c'est pour ça que j'allais. La radio, c'est pas tout à fait la télévision par rapport à mon modèle jukebox. Hein. Il y a quand même des gens qui, vous le disiez, Julia Belvert, qui regardent, qui écoutent France Inter parce que c'est France Inter, parce qu'il n'y a pas de pub, parce qu'on pense que c'est plus progressiste. Hein, ils disent même à gauche. Et il y a cette idée. Et on reproche, moi que j'écoute aussi beaucoup, on reproche à France Inter. Non, vous ne devriez pas dire des choses comme ça. C'est pas France Inter. Donc le passage de Patrick Cohen à Europe 1, il va lui attirer des critiques, des moqueries. Moi, je crois que c'est sûr.
Et surtout qu'il sort pour faire la même chose.
Pour faire la même chose.
Est-ce que ça serait plus facile de faire le cheminement inverse, c'est-à-dire de passer, par exemple, du privé au public, d'Europe 1 à France Inter, Julien Belvert?
Évidemment. Oui, et je pense qu'il faut interroger le médiateur de Radio France à ce sujet. Je pense qu'il a reçu énormément de mails et de courriels des auditeurs pour se plaindre, entre guillemets, de ce transfert de Patrick Cohen du service public au service privé. D'ailleurs, depuis quelques semaines, les auditeurs qui prennent la parole à 8h20 sur France Inter, très souvent, sont très agacés contre Patrick Cohen. Je ne sais pas s'il faut voir un lien de cause à effet entre son transfert sur Europe 1 et ça, mais je pense qu'il y a une petite rage des auditeurs de France Inter de voir leur matinalier, qui était quand même la matinale la plus suivie de France, partir sur Europe 1 pour animer une matinale avec plein de pubs l'année prochaine.
Et je crois d'ailleurs que ça avait été une crainte exprimée par certains à France Inter, que de voir l'antenne et la libre antenne, enfin cet espace offert aux auditeurs en début de matinée, sur France Inter, un peu pollué par ce transfert. Cyril Lacarrière.
Redouane l'a dit, c'est étrange de reprocher à Patrick Cohen de partir. Enfin, il était sur Europe 1 avant. Il a animé, je crois, le 18-20. Il est arrivé sur France Inter. Il a fait la matinale pendant 8 ans.
7 ans.
Et maintenant, il évolue. Enfin, il a tenu sa tranche 7 ans. On peut pas parler d'un mercenaire quand on parle de Patrick Cohen. Voilà. Il y a peut-être des différenciations aussi à faire à ce niveau-là. Quand on parlait tout à l'heure, on a évoqué le cas d'Yves Calvi. On va porter le jugement sur ce qu'il fait, mais il est parti de C'est dans l'air pour aller sur LCI, où il n'est resté qu'une saison, en informant un peu aux dernières minutes, les dirigeants de LCI qu'il partait pour Canal+. Là encore, sur une tranche en directe concurrence. Là, on peut se poser la question sur effectivement quel est le parcours, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut proposer, qu'est-ce qu'on veut dire. Sur le cas de Patrick Cohen, clairement, il s'est inscrit dans le temps long sur France Inter. Il a porté la tranche à un niveau historique. Donc, qu'il puisse à un moment avoir une envie d'ailleurs, et ça s'entend.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer, alors du coup, on parle pas que de Patrick Cohen, hein, bien entendu, ce soir, mais puisqu'on est dans un cas où on passe d'un média à un autre sur une tranche identique et sur une tranche donc forcément directement concurrente, qu'il y ait le dispositif qui peut exister dans d'autres secteurs professionnels que j'évoquais au tout début de l'émission, qui soit des clauses de non-concurrence, c'est-à-dire que quand on quitte une entreprise, il y a un temps pendant lequel on n'a pas le droit de travailler pour le concurrent. Est-ce que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans le monde médiatique? Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable, qu'il faudrait peut-être généraliser, et auquel cas que cette régulation-là soit transmise, par exemple, au CSA, s'agissant de l'audiovisuel, Julien Belvert?
Ah, bien sûr, cela existe dans certains médias. Quand vous êtes patron, par exemple, de Canal+, et que vous êtes remercié ou que vous négociez votre départ, généralement, vous négociez une clause de discrétion et une clause de non-concurrence. Sur le cas spécifique de France Inter, du départ de Frédéric Schlesinger et du départ d'Emmanuel Perrault, directeur des programmes, ce qui est hallucinant, c'est que ces deux hommes qui ont bâti avec succès la grille de France Inter puissent partir du jour au lendemain chez le principal concurrent pour monter une autre grille d'infos. En fait, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ils ont posé leur démission, ils ont un préavis qui leur est en ce moment imposé par Radio France, donc c'est un peu compliqué pour eux de travailler et de construire la grille d'Europe 1 pour la saison prochaine, mais c'est quand même assez aberrant que à Radio France, il n'y ait pas des contrats avec une clause de non-concurrence pour les dirigeants. Je parle des dirigeants, non pas des journalistes et des animateurs. C'est compliqué parce que certains ont des contrats de saison, donc ils peuvent se libérer en fin de saison. Mais pour les dirigeants qui détiennent quand même quelques secrets de fabrication, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas de clause de non-concurrence.
Mais ça, c'est plutôt au moment de la signature de contrat, plutôt que d'imaginer une régulation qui soit une régulation extérieure.
Ouais. C'est lors de la signature du contrat.
Heureusement qu'il n'y a pas de régulation du CSA sur ce genre de choses. Évidemment. Vous vous rendez compte,
Je ne crois pas du tout, d'ailleurs, qu'il y ait de revendications de la part du Conseil
des supérieurs. Mais il y a des enjeux économiques énormes.
Alors, les sociétés, que les entreprises privées, pour des raisons qui sont des raisons commerciales, financières, s'assurent d'un maintien de leurs dirigeants ou de leurs journalistes ou de leurs animateurs. Bon, mais c'est l'inverse qu'il faut prévaloir. C'est-à-dire que le journaliste doit pouvoir partir quand il veut, comme il veut, avec des indemnités. C'est ce qu'on appelle la clause de conscience. C'est quand même très, très important. Le journaliste, il est plus menacé que n'importe quel métier, que n'importe quelle profession. Donc, non seulement on ne doit pas décider de l'extérieur, mais même il faut garder cette raison. Même si on soupçonne, je ne sais quoi, c'est pas important. Il faut se rappeler de ce que c'est qu'un journaliste. Il porte un certain nombre d'idées. Les patrons, et en plus, si on fait des règlements pour empêcher les uns et les autres de partir, c'est parce que ils...
Peut-être pas les empêcher, mais en tout cas réguler davantage ces mouvements.
Oui, mais enfin bon, d'abord, c'est encore une fois, c'est aux entreprises de le décider, mais surtout parce qu'en général, vous avez une clientèle, des secrets de fabrication, un certain nombre d'éléments que les journalistes ou même les animateurs n'ont pas. Et si ils partent avec leurs idées, à la limite, quand vous avez une idée, elle est à vous, ou alors il faut, et c'est là que l'entreprise doit décider de maintenir ou pas le professionnel. Mais en tout cas, je crois que la liberté, en ce qui concerne les journalistes, est particulièrement importante et il ne faut jamais revenir dessus.
Bien sûr, et il faut la protéger.
Et la protéger plutôt que l'inverse.
Mais oui. Même quand on se place du point de vue des auditeurs, l'auditeur d'Inter...
Il y a quelqu'un qui appelle Isabelle Véramasson.
C'est ça. L'auditeur d'Inter qui a envie d'écouter Patrick Cohen, moi je pense que quand Patrick Cohen a envie de s'en aller, il peut avoir le choix de l'écouter sur Europe 1, et puis celui qui n'avait plus envie d'écouter Patrick Cohen, il écoutera Nicolas Demorand et Léa Salamé. Je pense que le turnover est plutôt bon aussi pour les auditeurs. La seule restriction qu'on pourrait peut-être envisager pour protéger l'audiovisuel public, c'est d'instaurer ce qu'on appelle un salary cap. Ça existe dans le sport américain. Je reprends des termes du sport américain, vu que le mercato est un terme de sport à la base. Le salary cap, c'est ce qui empêche certains clubs de pouvoir s'acheter toutes les stars. Et bien ça, on pourrait peut-être l'envisager dans les médias, d'avoir un salary cap pour Europe 1, pour leur permettre de ne pas attirer toutes les stars de l'audiovisuel.
Des règles anti-concurrence, quoi.
Appliquons les règles de la NBA au milieu des médias. Vous en pensez quoi, Cyril Lacarrière ?
À noter que les clubs de NBA, donc de basket des États-Unis, qui peuvent dépasser le salary cap, oui, payent des amendes. Voilà. Bon, donc, vous savez, comme.
Ça leur coûte encore plus cher.
Ils ont globalement de l'argent. C'est les clubs de basket sont extrêmement riches aux États-Unis, pour la plupart en tout cas. Donc, s'ils dépassent le salary cap, ils payent une amende, et puis c'est pas très grave. Vous voyez. Donc, je crois que sur la question de la régulation, c'est quand même extrêmement compliqué. Il y a une offre, il y a une demande. C'est un marché, après tout, comme le reste. Comme on va recruter, comme Alexandre Bompard vient de passer de la FNAC à d'Artib. On va aussi chercher, Europe 1, Arnaud Lagardère va chercher celui qu'il estime être le meilleur pour relancer sa chaîne.
Tout marché a toujours un minimum de régulation. C'est-à-dire les marchés qui sont totalement ouverts, ça n'existe pas dans le monde économique, Julien Bellevert.
Oui, évidemment. Et c'est aux entreprises de protéger leurs intérêts. Voilà. Donc c'est aux entreprises de faire des contrats en bonne et due forme. Un exemple en télé, par exemple, Ara Prican, qui était directeur général de C8, c'est lui qui a mis Cyril Hanouna à l'antenne. Il a été évincé par Vincent Bolloré, il a négocié son départ, il n'y a pas eu de clause de non-concurrence. Résultat, 2 mois plus tard, il était sur TF1, enfin quelques mois plus tard, il était sur TF1 et TMC, et il a créé le principal concurrent de Cyril Hanouna avec Yann Barthès en Access. Donc évidemment que c'est un marché important, il y a des enjeux financiers importants. Donc quand on a des talents, qu'on soit service public ou service privé, il faut protéger ses talents.
Sauf qu'on ne le fait pas avec les mêmes armes. Imaginons, par exemple, le patron de RTL m'appelle et me propose de faire la saison prochaine avec un salaire, je ne sais pas, oui. Je sais pas quels sont les salaires, mais imagine, allez, disons 50 000 euros par mois, ça vous
ça
semble
très bien,
quelque chose
bien,
crédible.
Ouais.
Bon, allez, 50 000 euros par mois. Que voulez-vous que fasse le PDG de Radio France, Mathieu Gallet? C'est-à-dire pour protéger ce salarié qui il tient tant, c'est-à-dire moi-même. C'est-à-dire, plus le marché est concurrentiel, plus c'est compliqué aussi de justement de
l'amour de Radio France, hein. Donc vous resterez pour l'amour de Radio France.
Non, mais il faut
de faire 40 000 sans publicité.
Il faut faire de la sociologie et je crois que Mathieu Gallet nous lit et montrer qu'en réalité, ça ne vaut pas le coup. C'est-à-dire que, comme on l'a montré sur un tas d'autres émissions,
vous êtes en train de briser la suite de ma carrière, du coup, c'est ça?
Non, mais un animateur n'emporte pas forcément son public. Ça ne va pas changer du. On voit bien pour Yves Calvi et France 5, ça c'est une leçon. Parce que quand même, France 5, c'est pas non plus TF1 ou une chaîne importante, et pourtant son public est resté.
Donc il n'y a pas de phénomène de surenchère aujourd'hui
Tandis que vous achetez Michael Jordan, à mon avis, ça change tout.
Radonella.
Non, mais après, je pense qu'il faut expliquer aux auditeurs aussi que le mercato est possible, rendu possible, parce que les voix de radio et les visages de télé sont soumis à des contrats de gris. Ils sont sous contrat avec l'entreprise la plupart du temps, de septembre à juin, et puis le reste du temps, ils sont pas sous contrat.
Oui, ça, donc, ce qui explique,
et on peut les virer. Donc, ce qui explique aussi les départs, les arrivées d'un tel et d'un tel. Le jour où toutes les voix et tous les visages seront en CDI, ce que je ne souhaite pas. Parce qu'en réalité, je pense qu'il est bon aussi de pouvoir changer la ligne éditoriale d'un média, les visages, etc. Mais le jour où tout le monde sera en CDI, il y aura beaucoup moins de départs et beaucoup moins d'arrivées.
Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie instabilité du secteur, en fait. Une vraie précarité du secteur. Donc, la plupart des animateurs, à part les grands animateurs qui sont là depuis des années, j'imagine que Patrick Cohen avait un CDI à Radio France, mais la plupart des animateurs sont libérés de leurs engagements au mois de juin. Donc évidemment, ça suscite des négociations, des discussions avec la concurrence, alors que s'il y avait des contrats sur le long terme, il y aurait, je pense, en effet, moins de mouvements.
Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que les règles sont différentes s'agissant du mercato quand on est en plein milieu de saison et qu'il y a des choses peut-être qui ne se font pas, c'est-à-dire qu'aller pêcher chez le concurrent un confrère, il faut attendre, voilà, c'est-à-dire c'est une forme d'autorégulation qui existe du fait de ce caractère très saisonnier des transferts à Cyril Lacarrière?
Ou ça, ou alors il faut être opiniâtre, c'est ce qu'a fait. Alors après, je juge pas du bien fondé de cette idée, mais c'est ce qu'a fait CNews en allant chercher Jean-Pierre Elkabbach, écarté de l'interview matinale d'Europe 1. On lui avait proposé quelque chose de week-end, ça l'intéressait pas beaucoup. Donc CNews à ce moment-là eu envie de s'attacher ses services. Ça discutait déjà depuis un certain temps et ils sont allés le chercher alors que lui était dans une position effectivement où il avait plus envie de rester sur cette antenne. Voilà, en cours de saison, c'est parfois une occasion, comme on dit, l'expression, qui fait le larron.
Redotez-la.
Oui, non, mais je pense que tout a été dit sur ces questions. Dès lors que on a ces contrats qui rendent possibles les allées et venues, et ben forcément, on s'expose à des médias RTL, Europe 1, pour ne pas les citer, ou alors Canal+, il fut un temps, qui sont en capacité d'aller chercher de nouveaux visages, de nouvelles voix, et voilà. Mais après, je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Les médias sont pleins de nouveaux talents. Quand France Inter perd Patrick Cohen, et ben France Inter à Nicolas Demorand et Léa Salamé.
C'est ce qui rend peut-être compliqué de mettre à jour une histoire de la télévision et plus largement de l'audiovisuel, Isabelle Véramasson, parce qu'avec ces mouvements incessants, c'est compliqué et ça suppose aussi justement des mises à jour régulières, non?
Oui, si on considère que l'histoire c'est de tout petits mouvements d'hommes et de choses, alors que en fait c'est
oui, que retiendra l'histoire de cette saison de transfert dans les médias? Je ne suis pas sûr qu'il leur retraite.
Alors peut-être qu'avec le recul, on verra des faits historiques de taille, comme, je ne sais pas, des décisions politiques graves sur le choix d'un tel ou d'un tel. Je ne crois pas. Je crois que ce que nous avons dit ce soir montre bien qu'il s'agit finalement d'un secteur qui se normalise, qui se professionnalise. Pendant longtemps, alors là, l'historienne de la télévision, c'était un secteur très politique, très institutionnel. C'était des énarques qui décidaient, et puis il y avait les géomètres et les saltimbanques.
Ça s'est totalement terminé ou il y a un petit retour de flamme?
C'est pas totalement terminé, on l'a dit, dans certains secteurs, il faut revenir selon les chaînes, selon les programmes, selon les personnalités, mais tout de même, ça s'est professionnalisé, et puis, je voulais le dire, parce qu'on n'en a pas parlé et que le temps passe, c'est aussi, ça vient aussi de l'évolution du métier de journaliste, c'est-à-dire que le métier de journaliste, et ça, je pense que les chaînes d'information continue sont très responsables, pas dans le sens négatif, mais il y a une volonté d'être de plus en plus neutre. C'est-à-dire que le journaliste éditorialiste, le journaliste engagé, le journaliste de droite ou de gauche qui avait une plume, etc., ce n'est plus le journaliste de base, parce que les chaînes d'information continuent, la domination de la télévision fait que, et puis parce qu'il y a maintenant des experts sur les chaînes d'information continue qui sont là justement pour prendre position. Donc, à partir du moment où les journalistes sont de plus en plus neutres, ils peuvent se déplacer de plus en plus facilement.
Voilà, qu'il y ait moins de journalistes éditorialistes, je ne sais pas si c'est véritablement un mal pour la profession. Mais enfin, ça serait l'occasion d'un prochain débat. Je vous réinvite bientôt. Merci en tout cas à tous les quatre, Julien Belvert, Edouane Tella, Isabelle Vermasson et Cyril Lacarrière, d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez écouter sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Louise Fuseau, Céline Leclerc, Fanny Richet, Maya Nefkovic, Cyril Baer, émission réalisée par Lise Marie Barré avec la prise de son Élise Le. Demain, nous nous demanderons si, face aux attentats, nous sommes devenus plus endurants. Dans un instant, vous allez retrouver Ping Pong, Mathilde Serrel et Martin Kénéen et leurs invités. Bonsoir à tous les deux.
Rebonsoir Hervé. Ce soir, nous partirons à la fois en Afghanistan et chez Bricorama avec notre camarade des pieds sur terre ici à France Culture, Sonia Krollmoon, pour la sortie de son film sélectionné à la quinzaine des réalisateurs Nothingwood sur le héros kitsch du cinéma afghan.
Et à ses côtés, Vincent Macaigne, metteur en scène non moins kitsch à l'occasion, mais qui nous revient comme acteur dans le rôle de Franck dans Des plans sur la comète, le film de Guilhem Amesland.
On vous retrouve dans 2 minutes, 3 minutes.